Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Merci d'être avec nous en ce samedi 27 mars 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Le pacte stratégique Iran-Chine signé, les forces américaines se sont retirées de la base d'Erbil au Kurdistan irakien et des manifestants se sont rassemblés à Bamako pour réclamer le départ des soldats français du Mali. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le pacte stratégique Iran-Chine signé, les forces américaines se sont retirées de la base d'Erbil au Kurdistan irakien et des manifestants se sont rassemblés à Bamako pour réclamer le départ des soldats français du Mali. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est arrivé à Téhéran le vendredi 26 mars pour signer le pacte stratégique Iran-Chine. Le document d'un accord de coopération stratégique sur 25 ans entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine est connu sous le nom de pacte stratégique Iran-Chine. Le partenariat sino-iranien pourrait éventuellement remodeler le paysage sécuritaire de la région et restaurer la stabilité grâce à l'approche chinoise de la paix pour le développement. Simultanément à la visite officielle du président chinois Xi Jinping en Iran le 20 février 2016, Téhéran et Pékin ont publié un communiqué dans lequel ils ont promu le niveau des relations à un partenariat stratégique global. Sur la base de la proposition de la partie iranienne d'établir des relations à long terme avec la Chine sur une période de 25 ans et de l'aval de la partie chinoise, les deux pays ont exprimé leur volonté et leur disponibilité de se consulter et de négocier pour conclure un document de coopération à long terme. Ce document a été préparé et rédigé dans le cadre d'un plan de 25 ans et les deux parties se sont mises d'accord sur une feuille de route et un horizon de relations globales afin de parvenir à un partenariat stratégique global. Le document doit être considéré comme un plan politique, stratégique, économique et culturel qui comprend les dimensions globales des relations à long terme. Lors de la récente visite de M. Zarif en Chine, cette question a été discutée, des textes ont été échangés et cette feuille de route est une coopération à long terme entre l'Iran et la Chine. Puisque ce document n'aborde pas les questions du jour, nous négocions soigneusement pour en définir un cadre à long terme de partenariat stratégique, avait dit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Notre relation avec la Chine atteint un partenariat stratégique et la feuille de route de 25 ans se poursuivra sérieusement. La politique actuelle de l'Iran n'est pas basée sur les évolutions du jour. Par contre, notre politique est basée sur notre vision à long terme de développement à l'échelle régionale et internationale, avait-il déclaré ailleurs. L'exposition des documents sur le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la République islamique d'Iran et la Chine sera inaugurée le samedi 27 mars au Centre d'études politiques internationales du ministère des Affaires étrangères. Pour rappel, 2021 coïncide avec la 50e année de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Iran et la Chine. Avant de se rendre en Iran, le chef de la diplomatie chinoise s'est déplacé en Arabie saoudite et en Turquie et après une escale à Téhéran, il est prévu qu'il se rende aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Sultanat d'Oman. Des sources irakiennes ont rapporté vendredi 26 mars le retrait d'un certain nombre de soldats américains de la base Erbil dans la région du Kurdistan irakien. Les sources ont déclaré que les forces américaines s'étaient déplacées vers la base de Fort Bliss au Texas. Malgré les mots prises par Washington, on ne sait toujours pas si cette action des forces américaines est une sortie définitive ou simplement un changement de position, ont estimé les médias irakiens. La nouvelle tombe alors que jeudi la veille, plusieurs convois logistiques appartenant à l'armée américaine avaient été pris pour cible en Irak. À cet égard, il a été annoncé qu'une bombe déposée en bordure de route avait explosé sur la trajectoire d'un convoi militaire des troupes américaines dans la province de Divaniya. Le groupe de résistance irakien Sahab al-Kahf a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Une autre bombe, déposée en bordure de route, a touché un autre convoi de troupes américaines à Dhiral, situé dans le nord-est du pays. Le groupe de la résistance irakienne Saraya Awli al-Dam a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Un troisième convoi américain a également été visé dans la région de Yusufiya à Baghdad. Des explosions similaires se sont produites au cours de ces derniers mois sur le trajet des convois des forces américaines en Irak. La coalition américaine a envoyé plus de matériel militaire en Irak pour se protéger des explosions, une stratégie qui a échoué à maintes reprises. Actuellement, les experts et les observateurs politiques estiment que les États-Unis sont en train de relancer les terroristes de Daesh en Irak, un objectif sous la présidence de Biden. Pendant ce temps, le commandant des forces spéciales américaines, le général Richard Clark, a révélé que le nombre de forces spéciales de son pays dans le monde avait atteint son niveau le plus bas depuis 2001. Aujourd'hui, nous avons environ 6200 soldats des forces spéciales dans 62 pays, a déclaré Clark dans un document publié en marge d'une réunion du comité des forces armées du Sénat. Clark a déclaré que, conformément à la stratégie militaire américaine, les forces spéciales américaines concentreraient leur position en Asie en notant qu'en 2021, environ 40% des forces déployées se concentreront sur les exigences dues à la concurrence avec les grandes puissances. Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré qu'elles avaient mené une opération à grande échelle avec 18 drones et 8 missiles balistiques au fin fond du territoire saoudien. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a rapporté que dans le cadre de cette opération, des bases et des structures militaires et vitales saoudiennes avaient été visées. Au cours de l'opération, les installations de la compagnie pétrolière d'Aramco à Ras Tanura, à Yanbu, à Rabir, à Jizan ainsi que la base aérienne du roi Abdelaziz à Dammam ont été prises pour cible. Le général de brigade Yahya Sali a déclaré que les installations d'Aramco avaient été frappées par 12 drones Samad 3 et 8 missiles de type Zulfarar, Badr et Sahir. Il a déclaré que des sites militaires à Najran et Asir avaient également été visés avec 6 drones RASEF K2. Nous mettons en garde les agresseurs criminels contre la poursuite de l'offensive et du siège imposé à la nation yéménite, a-t-il dit, sans manquer de préciser que cette opération avait atteint ses objectifs. Le commandant yéménite a souligné que les combattants yéménites sont prêts pour des opérations militaires plus intenses. Le porte-parole de l'armée yéménite a appelé toutes les entreprises étrangères et les citoyens saoudiens à s'éloigner des sites militaires sensibles parce que ces lieux sont les cibles légitimes des forces yéménites. Cette attaque a été menée dans le cadre d'une réponse légale à l'escalade du conflit et à la poursuite du siège du Yémen par la coalition pro-Riyad, a-t-il ponctué. Des manifestants se sont rassemblés vendredi 26 mars à Bamako pour réclamer le départ des soldats français du Mali. La France intervenue militairement en janvier 2013 pour aider l'armée malienne face à la poussée des groupes armés dans le nord et déploie 5100 soldats au sein de la force Barkhane dans ce pays et chez ses voisins sahéliens. Cette présence suscite épisodiquement des manifestations à Bamako ainsi que des expressions d'animosité sur les réseaux sociaux et dans la parole de certaines personnalités. Le rassemblement de vendredi a eu lieu au lendemain de la mort de 6 jeunes dans le nord-est du pays près de Talataye. Barkhane dit avoir neutralisé des terroristes dans le secteur, mais des notables locaux assurent que les jeunes tués étaient des chasseurs. Barkhane est confronté depuis jeudi, pour la deuxième fois en quelques mois, à des interrogations sur l'éventualité d'une bavure. La communauté Idak Saak Touareg, à laquelle appartenaient 5 des situés à Talaitaye, a condamné la frappe, tout comme la coordination des mouvements de l'Azawad. La CMA, ancienne rébellion armée dominante, Touareg, est signataire d'un accord de paix qui peine à s'appliquer, condamne avec la dernière énergie cette bavure de plus, cette bavure de trop de la force Barkhane. Comme la communauté Idagzak, elle réclame une enquête indépendante. Le président de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, CENA, Emmanuel Tiando a lancé jeudi à Cotonou la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 11 avril. La campagne électorale a démarré le vendredi pour prendre fin le 9 avril à minuit. Quelques 5,5 millions d'électeurs seront appelés aux urnes ce jour-là pour le premier tour de scrutin. Il s'agira de la 7e présidentielle dans ce pays depuis février 1990. En vertu du nouveau code électoral, le chef de l'État est élu en duo avec un vice-président au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le riz frappé, Israël assailli par une arme secrète en pleine mer d'Arabie. Comparé à l'attaque visant MV Eliosrei, cette base flottante du Mossad qui aurait visiblement pour mission d'espionner les côtes iraniennes bourrées, comme chacun sait, de pas mal de silos balistiques souterrains, de bases drones et encore de beaucoup d'autres choses, et qu'Israël avait déguisé en parking flottant pour distraire sur son trajet de Dammam à Singapour toute attention hostile, mais qui a fini tout de même par être découverte avant d'être prise pour cible une fois le détroit d'Hormuz franchi, le porte-conteneur israélien Lori a eu moins de chance. Eliosrei, avec ses 20 filles officiers du Mossad à bord, bien que totalement pris de court par cette double explosion qu'a visé le C2 du navire et l'a mis totalement hors service, se trouvait non loin des Émirats amis. Après une première tentative pour fuir le détroit d'Hormuz vers l'océan Indien, dans l'espoir de pouvoir se faire aider par l'US Navy, le personnel composé de 20 filles officiers du Mossad a eu la chance de se recueillir à Dubaïla. Mais le Lori, ce porte-conteneur appartenant à X-Management, une société militaire basée à Haïfa, ce port que Nasrallah y voit une bombe nucléaire potentielle de la résistance, du fait de ses réservoirs d'ammonium, se trouvait en ce jeudi 24 mars, date à laquelle elle a été ciblée, à 1000 km des côtes iraniennes, soit en mer d'Arabie, ou plus précisément à Makran. Toujours en termes comparés, le porte-conteneur Lori, avec ses 228 mètres de long et 37 mètres de large, fait petit face à Eliosrei, lui, une quasi-mastodonte de 300 mètres d'altitude. Mais ce qui compte dans ce troisième incident maritime de ces trois dernières semaines après Eliosrei est la marée noire sur les plages sionistes, ce sont bien ces 1000 km de distance. En effet, ce missile de croisière, qu'Israël dit avoir été tiré par le CGRI contre le Lori, tout en affirmant ne pas savoir d'où et comment il aurait été en plein océan, prouvant, si le besoin est, au moins trois choses. D'abord, la totale ineptie de la marine militaire israélienne à assurer la sécurité de son trafic maritime. Le golfe Persique, la mer d'Oman, Macron ou encore la mer d'Arabie ne sont pas le ciel du Golan occupé, ni celui du sud du Liban, pour que Israël ait la latitude d'agir comme bon lui semble, quitte à lancer des frappes impunies. Bien que là encore, et selon toute vraisemblance, la donne aérienne au Moyen-Orient est sur le point de changer depuis que la Syrie s'est mise à activer sa DESA optimisée, ses Buk M1 et ses complexes de guerre électronique made in Iran, quitte à aveugler à la fois les radars de Dôme de Fer et des F-16 israéliens. Jeudi, le Lori a été frappé sans pouvoir se faire aider par qui que ce soit, quelques heures avant que la résistance yéménite ne prenne pour cible, à quelques heures d'intervalle, de ses 26 drones et missiles de croisière, est, ouest et sud du royaume saoudien, prouvant à quel point il lui est désormais facile de frapper Aden, Socotra, Mion, Mora et bien sûr Eilat israélien. Et c'est là qu'apparaît un second constat. L'axe de la résistance, un champ d'action navale bien large qui s'étend du golfe Persique à la mer Rouge, en passant par la Méditerranée, la mer d'Oman, Macron, voire le sang indien, ce dont l'entité est totalement privée. Une entité qui en a eu pour ses frais seulement une semaine après la visite de son chef d'état-major en France, où l'intéressé avait appelé la marine française à l'aide, croyant que la riposte au tir de missiles visant le porte-conteneur iranien Charlie Kurd aurait lieu en Méditerranée. Cette bataille navale que l'axe US-Israël a déclenchée avec en toile de fond l'attaque contre pas moins de 12 navires, cargo et pétroliers iraniens depuis 2019 vient d'avoir pour théâtre toutes les voies et les espaces maritimes de la région. Et là, ce qui dira le dernier, ce ne sera ni le porte-avions, ni le destroyer de fin, ni non plus des marins, mais les capacités de guerre navale asymétriques.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 26 mars 2021. Ce 26 mars marque le 6e anniversaire de la guerre déclenchée par la coalition saoudienne contre le Yémen. 6 ans se sont écoulés depuis le début de cette guerre criminelle. Cette guerre a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants, détruit des infrastructures vitales du pays et provoqué, selon l'ONU, la pire crise humanitaire au monde. Un certain nombre de pays arabes, tels que les Émirats arabes unis, ont en effet soutenu l'Arabie saoudite dans cette guerre, mais aussi plusieurs pays occidentaux, à leur tête les États-Unis et la France, se sont rendus complices des crimes de guerre de l'Arabie saoudite au Yémen en vendant massivement des armes à la coalition saoudienne. À cette occasion, le porte-parole de la diplomatie iranienne a appelé à la fin de la guerre déclenchée par l'Arabie saoudite et la fin, en effet, du blocus imposé au Yémen et souligné que, en effet, la crise au Yémen n'avait pas de solution militaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces 6 ans de résistance héroïque du peuple yéménite contre l'Arabie saoudite et ses alliés. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Au Yémen, la vraie fausse offre de paix de Riyad, qui vise à vrai dire à éterniser la guerre à des doses moindres, a reçu sa réponse. La guerre pour la libération du Yémen se poursuivra jusqu'au bout. Le nom d'Ansar Allah s'explique selon Ray Al-Youm de façon suivante. Premièrement, Ansar Allah qui fait avancer ses forces à Ma'arib, bien que lentement en raison des frappes intenses de la coalition, ne peut s'engager dans aucune négociation ou cessez-le-feu, sauf après avoir contrôlé cette ville historique et qui est très riche en réserves de pétrole et de gaz. Deuxièmement, la résistance yéménite n'a aucune confiance au bout de 6 ans de guerre déloyale de Riyad et compagnie en la partie saoudienne et dans son discours sur l'ouverture de l'aéroport de Sana'a, qu'il dit être conditionné et limité. Au fait, Riyad cherche surtout à y maintenir son emprise et faire de cette ouverture un moyen de chantage. Troisièmement, les garanties internationales n'ont aucune valeur. Les autorisations qui ont été délivrées par les Nations Unies via leur siège à Djibouti pour que les navires entrent dans le port de Houdaïda n'ont jamais été respectées. Quatrièmement, lier le dossier humanitaire au dossier militaire, un des éléments les plus importants de l'initiative saoudienne, n'a pas été accepté par Ansar Allah, car la levée du siège sur les aéroports et les ports est un droit fondamental pour les 20 millions de yéménites, et ce, indépendamment de l'action d'Ansar Allah. Et le journal de poursuivre. Cinquièmement, l'initiative saoudienne ignore la souveraineté yéménite, celle des îles yéménites occupées et du retrait des forces étrangères saoudiennes et émiraties, israéliennes et américaines. Et puis, la gestion de la guerre par Ansar Allah au cours des dernières années a été très efficace et l'adoption d'une politique de patience stratégique à long terme a remarquablement bien fonctionné. Le mouvement est de loin le vrai gagnant et c'est à lui d'imposer ses conditions. Et le texte de conclure, ce que les dirigeants saoudiens semblent être incapables de réaliser, c'est que le Yémen de 2021 n'est pas celui de 2015 et qu'Ansar Allah est une puissance émergente en mer de rouge avec qui il faut compter. Vaut mieux se rendre à cette évidence avant qu'il ne soit trop tard.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Arnaud Develay, juriste international depuis Damas, et Madame Aïssa Arbidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris. Madame Arbidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Mais bonjour à tout le monde, toute l'équipe PSTV et tous vos auditeurs.
Merci infiniment. Madame Arbidani, ce 26 mars marque le 6e anniversaire de la guerre dévastatrice déclenchée par l'Arabie saoudite et ses alliés régionaux et occidentaux contre le Yémen. Une première question, justement, parce que justement ces derniers temps, d'importantes évolutions se sont produites, notamment sur le front, avec des victoires consécutives de la résistance yéménite, mais aussi sur le plan politique, d'autant plus que le chef de la diplomatie saoudienne a été contraint, en quelque sorte, de proposer une trêve aux yéménites. Alors, quel regard rétrospectif portez-vous, Madame Arbidani, sur ces 6 ans de résistance héroïque du peuple yéménite contre Riyad et ses alliés?
Effectivement, alors je voudrais saluer effectivement le peuple yéménite pour cette résistance héroïque et ces victoires qu'ils n'ont cessé de remporter face à des forces de destruction horribles et systématiques. En fait, les Saoudiens ont procédé, en fait la coalition, je ne parle pas des Saoudiens seulement, la coalition qui est dirigée en fait par les États-Unis ou commanditée par les États-Unis en fait avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et ce sont et puis derrière il est certain qu'il y a les forces israéliennes. Ils n'ont pas cessé de mener des destructions systématiques de l'infrastructure yéménite. Ils n'ont pas cessé de s'attaquer aux installations vitales du peuple yéménite, les installations scolaires, universitaires, les installations hospitalières aussi, ainsi que toutes les installations qui sont liées à la vie, c'est-à-dire les installations électriques, les installations de distribution d'eau, etc. Malgré tout, le peuple yéménite, malgré des milliers et voire des millions de victimes, entre blessés et martyrs, le peuple yéménite n'a pas cédé, continue à se battre pour sa liberté, pour sa souveraineté, pour son indépendance. Je voudrais dire aussi que les Saoudiens ont procédé en fait par des dissensions. L'objectif, c'était toujours créer de la discorde et la dissension entre les différentes tribus et les différentes composantes du peuple yéménite. Le peuple yéménite s'y est opposé de manière très, très souveraine aussi. Ils ont réussi donc à s'unir tous ensemble, à faire un lien en fait, et un réseau et en plus un véritable commandement populaire et de la révolution yéménite. Et donc, ils sont effectivement unis, et par cette unité, ils ont aussi remporté de grandes victoires. Je voudrais aussi saluer leur créativité et leur esprit scientifique, qui leur a permis aussi de faire développer et de développer leurs propres armes, de manière à développer aussi bien des missiles de précision, des drones qui vont à des grandes distances, etc., aussi, qui vont jusqu'à bombarder à des milliers de kilomètres les installations saoudiennes pour exiger de l'Arabie saoudite qu'elle arrête ces destructions et ces bombardements.
Merci, Madame Midani.
Qui n'a jamais été faite et tenue compte par les Saoudiens.
Merci infiniment pour ces éclairages, Madame Midani. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Maître Arnaud Develet, juriste international à Damas. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Maître Midani.
Maître Develet, 6 ans après le début de la guerre dévastatrice déclenchée par l'Arabie saoudite contre le Yémen, où en est-on aujourd'hui de cette guerre, à la fois sur le plan humanitaire, mais aussi et surtout en ce qui concerne le rapport des forces sur le front?
Sur un point humanitaire, il a été documenté de manière extensive que le conflit au Yémen est la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, alors même que les médias, si je puis dire mainstream, n'en parlent absolument pas. On parle de centaines de milliers de morts, on parle de conditions liées à la famine, liées au choléra, liées à l'absence d'accès aux soins, liées à la destruction systématique de lieux culturels, lieux de culte, hôpitaux, écoles. C'est une véritable entreprise systématique, et j'appuie ce terme parce que c'est un terme qu'on retrouve dans les statuts des tribunaux internationaux sur non seulement les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, mais aussi génocide. Il faut se rappeler que la direction saoudienne a elle-même employé des termes extrêmement précis et incitateurs concernant le peuple yéménite, laissant entendre qu'il n'était essentiellement bon qu'à être éradiqué, quelque chose dans ce sens-là. Hein. Il y a eu des déclarations officielles et reprises par les médias. Et ceci constitue, selon moi, suffisamment d'éléments pour probablement lancer des procédures contre la direction saoudienne en ce qui concerne cette guerre. L'agression est caractérisée et visiblement toutes les injonctions des organes internationaux ont été ignorées, ce qui explique bien pourquoi effectivement le porte-parole du Tronc du Salut a souligné que les éléments portant sur les accords internationaux intermédiaires concernant l'acheminement de l'aide humanitaire n'avaient aucune valeur, puisque de toute façon la direction saoudienne ignore complètement le droit international le plus élémentaire et s'enfonce littéralement dans une spirale qui risquerait bien de le consumer à la fin de la journée, si je puis dire. Sur le rapport de force, Mme Midani l'a bien souligné, grâce à l'ingéniosité l'esprit de corps manifesté, exprimé par le Tronc du Salut, un arsenal des plus divers et des plus dévastateurs a été développé, qui permet maintenant à la résistance yéménite de porter la guerre au plus profond de l'Arabie saoudite. avec des frappes qui incapacitent complètement les aéroports, les ports, les terminaux pétroliers et les installations pétrolières, ce qui fait que l'Arabie Saoudite est maintenant frappée dans son cœur, sens premier du terme, à savoir sa capacité à être d'une pertinence géostratégique pour ses alliés. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les alliés de l'Arabie Saoudite vont profiter de cette étape faiblesse de la direction saoudienne pour une période qui pourrait à terme mener à un vide politique, ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes directement intervenir? Ça, c'est la question, à mon avis, dans l'état actuel des choses sur le terrain, qui est la question qui se pose.
Merci pour ces précisions, Maître de Velay. Madame Edani, justement, concernant la dernière partie, des explications de Maître de Velay. Aujourd'hui, bien sûr, la résistance yéménite est en position de force. D'où justement alors cette proposition de trêve avancée par le régime de Riyad. Mais concernant les alliés de Riyad, justement, avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis, certains analystes sont d'avis que le président américain pourrait en effet lâcher son allié saoudien au Yémen. Ceci étant dit, quelle est selon vous la stratégie et le plan de l'administration Biden pour le Yémen, Madame Edani?
Écoutez, je crois que le Yémen est très important, en fait, de par sa position stratégique et de par sa position sur le passage des eaux, des passages maritimes, par où passent, une quantité importante ou un pourcentage important de l'échange mondial de toutes ces denrées, essentiellement aussi le pétrole, le gaz et les autres denrées entre l'Est, l'Ouest et donc qui passe par Bab el Mandeb. D'où cet acharnement en fait des Saoudiens et des Américains derrière, je dirais, contre le Yémen. Aujourd'hui, avec ces grandes victoires du Yémen, effectivement, on pourrait penser que l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou Biden pourraient lâcher l'Arabie Saoudite à son destin, je dirais, dans cette défaite. Mais n'empêche que je pense qu'il y aura toujours un plan B, en fait, qui va chercher à garder un pied dans la région. Ce plan B pourrait être l'agression israélienne, et on sait qu'il s'appuie sur Israël et l'Arabie Saoudite dans la région et les Émirats. Ça, c'est un premier point. Mais je pense que l'Arabie Saoudite pourrait en faire les frais, puisque cet affaiblissement du royaume, enfin du régime du royaume, pourrait être le moment opportun pour un réveil du peuple saoudien, qui déjà est très il perçoit très mal la politique actuelle de Mohammed bin Salman depuis déjà l'assassinat de l'imam Nomr. Et depuis les grandes répressions très violentes et très sanguinaires de l'ensemble du mouvement à Qatif, donc le peuple, et puis surtout le comble, ça a été le fait que Mohammed bin Salman ait reçu Netanyahou en Arabie Saoudite. Il faut savoir quand même que la défense des lieux saints, c'est quelque chose qui est très cher, non seulement au peuple saoudien, mais à tous les musulmans. Donc aujourd'hui, effectivement, la victoire du Yémen et la victoire de la récupération, en fait, de la souveraineté yéménite sur la totalité des territoires du Yémen y compris sur les îles de Socotra et l'autre île, en fait, qui sont devenues pratiquement un centre de, d'espionnage contre, la, contre les peuples de la région, un centre d'espionnage israélien contre les peuples de la région. Je pense que c'est effectivement, ça peut être un des points importants dans la, je dirais, dans la montée des victoires, en fait, et la, l'appui de ces victoires par le peuple saoudien. Donc, en fait, face à cela, il y a les Américains et les Israéliens, je dirais, ils n'auraient d'autres alternatives que d'accepter l'état de fait. Ils agiront par d'autres moyens, mais de toute façon, c'est une très grande victoire et j'espère qu'il sera aussi afflué par la, le réveil des peuples, du peuple de l'Arabie Saoudite aussi, et puis de peuples du Golfe aussi, parce qu'on sait que Al-Bahreïn, c'est aussi un peuple qui est contre toutes ces mesures de coopération et de collaboration avec Israël. Les Émirats, on peut penser aussi qu'il y aura bien qu'ils se soient retirés à temps peut-être de cette agression contre le Yémen, mais bon, ça peut être un changement total dans la région de la presqu'île arabe et de toute cette de tous les États de cette
Merci,
région,
Madame
et donc ça pourra être contre tous les intérêts des Américains et Israéliens dans le secteur.
Merci infiniment, Madame Idani. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, face à Ansar Allah, cette puissance militaire et balistique émergente, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du tandem américano-israélien qui cherche bien entendu à atteindre ses intérêts géostratégiques dans cette partie importante du monde? Et puis, les marges de manœuvre et la place et les intérêts plutôt des pays comme la France qui se sont rendus complices, en effet, des crimes de guerre au Yémen en vendant des armes à la coalition saoudienne. Rappelez également que hier, justement, il y a eu un rassemblement à Paris pour dénoncer justement cette complicité de la France.
Et écoutez, je suis d'avis que les puissances occidentales, les États-Unis et l'Europe, mais aussi les Israéliens, de pied et main liée avec, si je puis dire, les orientations stratégiques concernant leur relation assez intime, voire incestueuse avec la direction saoudienne actuelle. Quelles seraient leurs options à la marge, vu que la situation militaire, la guerre est perdue, c'est pas fait. Elle ne peut que renforcer le destin inéluctable d'une vacance politique au plus haut niveau en Arabie Saoudite. Dans cet état de fait, il est difficile d'imaginer que les États-Unis et leurs alliés joueraient un peu avec le jeu dangereux de la surenchère et voir jusqu'où ça peut aller. Et je ne pense pas qu'ils aient la volonté politique d'intervenir directement. On pourrait peut-être, dans ces cas-là, assister à un recalibrage où l'équation politique en Arabie Saoudite reste dans son essence la même, mais avec un ajustement ponctuel au plus haut niveau. Le souci, c'est que les Israéliens ont beaucoup sur cette relation privilégiée lors de l'administration Trump avec Ben Salman. Que Ben Salman fait beaucoup de choses, il est tenu, si je puis dire, par les Israéliens. Il sait très bien que son destin dépend en fait de cette alliance contre nature avec les Israéliens, même si de temps en temps il émet le fait que la normalisation n'est pas à l'ordre du jour, mais je pense qu'en fait il n'a pas d'option. Donc c'est une situation après qu'il restera, si je puis dire, à surveiller de près, mais sur un plan régional, la situation actuelle, le statu quo ne peut pas rester, ne peut pas être conservé. Il faut qu'il y ait un changement pour qu'il y ait des pourparlers portant sur une solution politique sérieuse, que la résistance yéménite ait un interlocuteur dont le salut politique, le destin politique ne soit pas intrinsèquement lié au conflit au Yémen. Or, concernant Mohamed Ben Salman en tant que ministre de la Défense et initiateur premier, c'est l'auteur, il est le créateur de ce conflit, il a lié son destin politique à la victoire militaire. Et en cela, il n'est pas concevable que, dans sa tête, à lui en tout cas, de revenir en arrière et de faire des concessions qui finiraient d'achever l'image qu'il souhaite projeter de lui-même au sein du royaume.
Maître Armand Develay, juriste international depuis Damas, Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. L'Iran développe un nouveau drone de combat à long rayon d'action. L'Iran se trouve actuellement dans la phase finale de conception de son premier drone de combat de grande dimension qui sera capable de parcourir jusqu'à 3000 km, a annoncé cet mercredi le commandant des forces aériennes iraniennes Aziz Nasirzadeh. L'appareil baptisé Kaman 22 a été conçu et développé conformément aux exigences de l'armée de l'air, a déclaré de Nasirzadeh. Le Kaman 2 sera équipé de différents types de munitions intelligentes, ainsi que de divers dispositifs optiques et d'équipements de guerre électronique, a-t-il indiqué, ajoutant que le drone pourrait effectuer des missions aériennes durant jusqu'à 24 heures. Il sera doté de toutes sortes de capacités de reconnaissance, de surveillance et de collecte de renseignements et aura la capacité de prendre des photos de cibles éloignées. En janvier, l'armée iranienne a mis en scène un jeu de guerre et a fait voler de nouveaux drones et suicides militaires qui peuvent effectuer des sorties sans arrêt pour atteindre des cibles à une distance de 4000 km. L'Iran continuera de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a souligné que l'Iran continuerait de respecter ses engagements au titre des accords de garantie du TNP et de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. S'adressant aux journalistes, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a confirmé que la mise en œuvre du protocole additionnel avait été interrompue. Zarif a souligné que l'Iran continuerait de respecter ses engagements au titre des accords des garanties. Il a expliqué que les images enregistrées par des caméras sur les sites nucléaires iraniens ne seront désormais plus diffusées et ne seront plus partagées avec l'AIA sur une base quotidienne et hebdomadaire comme cela se faisait par le passé. Le chef de la diplomatie iranienne a noté que l'Iran n'aura pas de réunion officielle avec les États-Unis puisque Washington n'est plus partie à l'accord nucléaire. L'arrêt s'inscrit dans le cadre du plan global d'action stratégique pour contrer les sanctions, une loi adoptée en décembre dernier par le Parlement iranien.
Réagissant aux allégations iraniennes avancées par le Premier ministre israélien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Benjamin Netanyahou a recouru à des mensonges détestables, manière d'inciter à une iranophobie raciste ». Saïd Khatibzadeh a écrit sur son compte Twitter « Netanyahou, en colère d'avoir perdu son ami con à la Maison-Blanche, a fait recours à des mensonges détestables pour inciter à une iranophobie raciste ». Khatibzadeh a poursuivi « Cela doit être douloureux pour lui que cette conspiration iranienne ait volé de nouveau en éclat » a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le ministère iranien des renseignements a annoncé la neutralisation d'une opération terroriste et la mort de deux terroristes qui envisageaient de mener une opération à Piranshahr, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental. Le département des relations publiques du ministère iranien des renseignements a annoncé qu'en coopération avec le bureau des renseignements de la province d'Azerbaïdjan occidental et le siège de Hamza Seyyed Shohada, l'acte terroriste d'un groupe terroriste a été déjoué. Des membres de cette équipe terroriste composée de deux membres affiliés à un groupe terroriste basé dans la région du Kurdistan ont été tués dans un affrontement, ajouté dans son communiqué le ministère iranien des renseignements. Ces terroristes qui prévoyaient de mener une opération terroriste à Piranshahr ont été tués au cours de laquelle deux fusils Kalachnikov, des grenades et des munitions ont été détectées sur des éléments terroristes. Le développement entourant le programme nucléaire iranien sont un point critique et la levée des sanctions contre l'Iran est essentielle, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. La situation actuelle sur la question nucléaire iranienne est un point critique avec à la fois des opportunités et des défis, a déclaré M. Wang aux journalistes lors de son point de presse hebdomadaire. Nous avons toujours cru que le retour des États-Unis à l'accord global et la levée des sanctions contre l'Iran sont les clés pour sortir de l'impasse dans le dossier nucléaire iranien, a-t-il précisé. Un avion de reconnaissance de la coalition d'agression saoudienne a été abattu dans le ciel de la province de Ma'arib, au nord du Yémen, où la guerre de libération de cette région vient d'entrer dans sa phase finale. Le site Al-Khabar al-Yémeni affirme que l'avion de reconnaissance de la coalition d'agression saoudienne a été intercepté et abattu alors qu'il se trouvait en mission de collecte d'informations visant les positions d'un Sarallah sur le front de Sana'a. Entre-temps, d'intenses combats se poursuivent sur le front est à la ville de Sirva, où l'armée yéménite Sarallah continue à avancer pour venir à bout de la coalition d'agression saoudienne et de ses conseillers occidentaux et de ses mercenaires à Astas, ville stratégique située à l'est de Ma'arib. La chute imminente de la province pétrolifère revient de facto à couper de la voie terrestre entre l'Arabie d'une part et les régions occupées du sud yéménite, y compris Aden de l'autre. La coalition d'agression saoudienne n'aura alors qu'une seule et unique voie d'accès au port stratégique du sud du Yémen via la province de Mahrah. Le président russe Vladimir Poutine a appelé ses services de sécurité à faire face à la politique occidentale d'endiguement qui cherche à enchaîner la Russie avec ses multiples sanctions. Nous sommes confrontés à une politique dite d'endiguement de la Russie, a souligné le président russe Vladimir Poutine, reprenant le terme associé à la politique étrangère américaine ayant visé à lutter contre l'influence soviétique. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a déclaré l'ambassadrice de l'Union européenne dans le pays de persona non grata. Aujourd'hui, sur décision du président Nicolas Maduro, nous avons remis à Mme Isabelle Briand en main propre une déclaration de persona non grata, a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères à Riazah lors d'un point de presse suite à son entrevue avec l'ambassadrice. Cette décision a été prise en riposte aux récentes sanctions imposées par les 27 contre 19 fonctionnaires de la République bolivarienne qui prévoit l'interdiction pour eux de voyager dans l'Union européenne et le gel de leurs avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.